La revue de presse internationale, bonjour Thomas Cluzel.
Bonjour Guillaume.
Et ce matin, une question de courage politique.
Oui, quelques jours après la publication des Paradise Papers, le magazine allemand Die Zeit a choisi de consacrer son dossier de la semaine aux mesures qui pourraient être prises par les politiques et de s'interroger ce matin à sa une, qui détient le pouvoir, les États ou les super-riches de nos jours? Des milliardaires et des grandes entreprises façonnent le monde à leur convenance, or les gouvernements pourraient y mettre des limites, estime le magazine de Hambourg, avant toutefois de préciser, mais pour cela, encore faudrait-il qu'il fasse preuve de courage politique. On aura bien regardé l'actualité encore ce matin, on se dit que le courage comme premier outil de gouvernance reste largement une vaste supercherie. Prenez par exemple le cas de la plus grande catastrophe que le monde ait connue depuis des décennies, le Yémen. Un quart des 28 millions d'habitants du Yémen sont aujourd'hui confrontés à la menace très réelle de mourir de faim. À moins que l'Arabie Saoudite ne lève immédiatement son blocus pour permettre l'arrivée des vols humanitaires. Mercredi, les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU, qui compte de nombreux alliés de Riyad, des États-Unis à l'Égypte, en passant par le Royaume-Uni et la France, se sont réunis pour des consultations à huis clos, justement sur cette question humanitaire, la seule en réalité qui fasse l'unanimité. Et bien 48 heures plus tard, aucune aide n'est encore entrée dans le pays. 1200 tonnes de nourriture et de matériel médical seraient toujours bloquées entre Djibouti et le Yémen. Les avertissements directs des organisations humanitaires sont tout simplement restés lettres mortes. Le monde a détourné les yeux et n'a rien fait depuis trop longtemps, fustige notamment la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Et pourquoi ? Réponse glaçante du journal. Le Yémen est si lointain et si pauvre, dit-il, que ses citoyens ne pourront jamais atteindre l'Europe en tant que réfugiés.
Et lui a pour habitude d'instrumenter le courage dans sa façon de communiquer. Lui, c'est Donald Trump, dont toute la presse s'accorde à dire, Thomas, que sa tournée asiatique aura surtout mis en exergue, en réalité, l'impuissance américaine.
Oui, d'ailleurs, les médias chinois se montrent absolument ravis ce matin du voyage de Donald Trump. Le président américain, écrit un analyste de la télévision d'État, CCTV, a donné à la Chine exactement ce qu'elle voulait, c'est-à-dire ce respect en tant que nation prééminente sur la scène internationale. De son côté, The Global Times note que Trump n'a pas utilisé la question des droits de l'homme pour semer le trouble en Chine, ce qui signifie que les relations sino-américaines ont pu se concentrer sur des questions de fond, se réjouit le journal officiel. En d'autres termes, si en 2014, les altercations verbales entre responsables américains et chinois avaient fait la une des journaux, cette fois-ci, tous saluent au contraire le nouveau regard de Donald Trump sur la Chine. Ainsi, par exemple, s'il y a quelques années encore, les responsables chinois n'auraient pas été surpris par une question sur la liberté de la presse. Hier, ils n'ont même pas eu à y répondre. De même, la question de la mer de Chine méridionale a à peine été mentionnée. Enfin, relève le site de la chaîne américaine CNN. S'agissant de la Corée du Nord, la concession chinoise la plus importante aurait été une promesse de la part de Pékin de mettre fin à ses exportations de pétrole brut vers le régime de Pyongyang. Mais cela reste peu probable. En réalité, le fait que les deux dirigeants n'aient que vaguement convenu qu'une solution existe indique qu'ils n'ont pas encore été en mesure de parvenir à un quelconque consensus stratégique. D'où cette question: où est passé le président qui brandissait la menace de feu contre le régime nord-coréen? Où est passé le candidat qui promettait d'étiqueter la Chine comme un manipulateur de devises? Historiquement, peut-on lire toujours sur le site de la chaîne américaine, les visites présidentielles ont toujours permis d'obtenir des changements de politique et à ce titre, cette visite a donc été une occasion manquée, dit-il, et le journaliste d'ajouter, il n'est même pas certain que la moisson d'accords commerciaux pour plus de 250 milliards de dollars annoncée hier ait été le fruit de cette visite. Sans doute cette annonce avait-elle seulement été retardée à des fins politiques.
Enfin, deux exemples tout de même, Thomas Cluzel, de courage politique à la une des journaux. Cela se passe aux États-Unis à la suite des élections parlementaires qui se tenaient cette semaine en Virginie.
Oui, Danny. Monica Rom, tout d'abord, cette démocrate transgenre de 33 ans, nous apprend le magazine Slate, a remporté la victoire haut la main face à son adversaire républicain de 73 ans, sans doute le politicien le plus farouchement anti-LGBT d'Amérique. Bob Marshall, c'est son nom, occupait ce poste depuis 1992. C'est lui en particulier qui, en 2015, avait proposé un projet de loi radical visant à légaliser la ségrégation anti-LGBT dans les hôtels, les restaurants, les entreprises, les écoles et les hôpitaux. Il avait également fait capoter la nomination d'un juge uniquement parce que celui-ci était gay. Or, c'est cette haine ouverte que vous, Bob Marshall, aux personnes LGBT, il s'était d'ailleurs lui-même qualifié d'homophobe en chef de son État, qui a incité la journaliste Danica Rom à se présenter contre lui. Et puis, lui aussi a remporté son pari cette semaine. Lui, c'est Chris Hurst, également élu au Parlement local en Virginie, contre cette fois-ci un candidat soutenu par le lobby des armes. Alors, avant de se lancer en politique, Hurst, 30 ans, était journaliste dans la même chaîne télévisée que sa femme, Alison Parker. Twitter. En 2015, c'est elle, vous vous en souvenez sans doute, qui avec son caméraman avait été abattue en direct à la télévision par un ancien employé de la chaîne. Et c'est ainsi que Hearst a décidé de se lancer en politique pour se battre pour les personnes les plus vulnérables. Comme il l'expliquait encore récemment au New York Times, il espérait que son élection montrerait aux gens que n'importe qui peut transformer une tragédie en triomphe. Avant d'ajouter, ce n'est pas ce qui nous arrive pendant notre pire journée qui nous définit, c'est ce que nous faisons après.
Merci beaucoup Thomas Cluzel. On retrouve votre revue de presse internationale sur le site de France Culture, franceculture.fr.